Hello, four four. Madame de Zoua. Qu'est-ce qu'on parle ici? Français? Franglais? Les deux. Ok. Non, j'ai plutôt l'habitude de parler en étant debout. Et j'ai un écho. Vous l'entendez ou c'est mes petits appareils? Je vais fermer les appareils. Non? Ah, ok, ok. J'aime mieux les anciens jours où, lorsqu'on parlait, on élevait la voix simplement pour qu'on entende en arrière. Mais on ne prêche plus comme ça. Il faut ce style conversationnel. On parle en tout douceur pour ne pas offusquer les gens. Et j'entends toujours l'écho. Alors, ça va. On va parler de l'amour et du respect. On m'a dit que j'ai de l'expérience, oui, mais vous savez, il y a des expériences bonnes et des expériences mauvaises. Et par ça, on apprend. On apprend. Alors, donc... J'ai deux textes que je vais vous donner bientôt, mais un petit mot d'explication. On m'avait dit que mon sujet serait amour et respect dans le mariage. Mais sur le petit feuille qu'on avait distribué, c'était marqué simplement amour et respect. Je dis ouf. Amour, respect trouve la famille, le mariage évidemment, la famille, les enfants, l'emploi, les autorités. Tout, c'est amour et respect. Mais ce matin, je vais me limiter, puisque, oui, je vois là. Heureusement, pasteur, vous avez un horloge là. J'avais pris un intérim dans une petite église sur l'île du Prince-Édouard, et on n'avait pas d'horloge en arrière, donc je suis allé tout de suite à Walmart. Ah oui, pour tout ce qui concerne la radiophonie, tout cela, demandez à Marc. Non, ça va. Si vous n'entendez pas, élevez la main, je vais hurler plus fort. Mais, non, amour et respect qui comprend plusieurs domaines, oui, mais la Bible parle aussi de l'amour de nos ennemis. La guerre est un tout autre domaine, mais ça parle du respect de nos employeurs, des employés, de leurs employeurs, de l'amour mutuel et du respect, soumission dans l'Église. Est-ce qu'il y a de l'amour et du respect dans l'Église du Sentier? Je le souhaite fermement, puisque c'est la seule manière d'avancer, la seule manière de faire du progrès. Mais Pierre et Paul dirigent leurs instructions aux personnes qui auront en eux le Saint-Esprit. Je sais, je suis devant un groupe d'hommes, et merci d'être venu. Je ne sais pas si chacun, absolument tous, auront déjà fait le paix avec Dieu en plaçant toute leur confiance dans le salut gagné à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, si vous êtes venu simplement puisque vous aimez la compagnie des autres. Et je comprends ça. Mais je vais diriger mes pensées ce matin vers ceux qui auront déjà la présence du Saint-Esprit dans le cœur. Comment recevoir le Saint-Esprit? Simplement placer votre foi en Jésus. Lorsque Jésus nous pardonne de nos péchés, nous sauve du jugement de nos péchés, il envoie aussi le Saint-Esprit, qui est Dieu, demeurer en nous. Comment ça se fait? De la même manière qu'il a créé le monde en 6 jours. De la même manière que Dieu est devenu homme pendant 33 ans sur la terre. De la même manière que Dieu fait tout. On ne lui demande pas comment. On dit simplement, merci Seigneur, j'écoute. C'est comme ça qu'on a des rapports avec Dieu. Alors, la Bible nous donne des instructions et Pierre et Paul, deux apôtres qui ont écrit plusieurs lettres aux églises qui avaient des problèmes. Et ici, 2000 ans plus tard, nous pouvons profiter de leurs exemples. Alors, Galates 5 et 16. Galates, si vous avez une Bible, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, et puis Galates. Galates 5 et 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il y a deux phrases qui pourraient être difficiles pour quelques-uns. « Marchez selon l'Esprit et les désirs de la chair. » Mais les désirs de la chair, c'est un bon repas. Mais les désirs de la chair pourraient être tout autre, des mauvais désirs. Mais ils ont dit, marchez selon l'Esprit, selon les instructions que Dieu vous donne, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah, voilà. Ah, bouteille neuve, merci. Ça va, on est tous immunisés contre presque tout. Et ils font les petits bouteilles pleins et compressibles. Et quand ils sont comprimés, vous avez... une belle fontaine. Ok, merci quand même. Alors, la commande de marcher selon l'Esprit est donnée car les actions de certains, de certaines, révèlent qu'ils ne sont pas du tout remplis du Saint-Esprit. Les actions des autres remplissent qu'ils obéissent à quelque chose. Qui n'est pas la psychologie du jour, qui n'est pas ce que font la plupart des personnes, il y a quelque chose qui le motive. Et quelle est cette motivation? Mais c'est la présence de l'Esprit. Et puis, il y a des gens, et si vous êtes ici ce matin, qui auront réellement placé toute leur foi en Jésus-Christ, qui auront reçu le Saint-Esprit dans leur cœur, mais ils crèvent de faim spirituelle. Et quand vous crèvez de faim spirituelle, vous n'allez pas écouter le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas écouter le Saint-Esprit. Même s'il vous dit « fais ceci, fais cela », vous n'avez pas la force de résister. Mais il y a un remède pour cela. Revenez à la parole et puis marchez. J'avais mis ma Bible ici. Il y a un autre verset que j'aimerais laisser avant de continuer. Galates 5 et 26. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est le Saint-Esprit, sa présence, qui nous donne la vie éternelle. Mais si nous avons la vie éternelle, marchons ici-bas. Vous savez, on a dit que je suis le doyen de l'Église. Je me demande. Il y a une doyenne dans cette église. Vous connaissez tous Madame Lalonde? Elle est doyenne. Elle est plus âgée que moi, par plusieurs années. Est-ce qu'il y a un autre doyen, peut-être? Moi, je n'ai que 86 ans. Alors, donc, il se peut, je vois encore les cheveux blancs, il se peut qu'il y ait quelques-uns ici qui me dépassent. Si oui, levez la main, sinon j'accepte le titre. Mais la plupart du temps, on appelle le doyen le vieux. Vous savez, moi je suis le vieux. Ça va. Tout non. Pour arriver, j'ai la joie d'avoir vécu autant d'années, par la grâce de Dieu, à travers le paludisme, le malaria si vous voulez, le paludisme, les autres maladies, surtout la dysenterie, on a des gens de l'Afrique ici, vous connaissez ça. Il y a des mouches. Et puis, les systèmes sanitaires fonctionnent derrière le village. Et les mouches voyagent. Et ils se posent sur votre assiette, et puis, voilà, vous commencez à prendre des pilules. Et bien vite. J'ai vécu tout cela. Et puis, arrivé au Québec, et en Estrie, je suis allé voir le médecin pour quelque chose, et un jeune docteur, fraîchement sorti de l'école, puis, Monsieur Bacon, est-ce qu'on vous a fait votre PSA? Je dis, PSA, qu'est-ce que c'est que le PSA? J'avais déjà 60 ans. Elle dit, je vais vous montrer. Donc, petite injection, cet ennemi, il y a quelque chose qui cloche un peu. Et donc commence une histoire depuis l'an 2002. Sept semaines de radiation et puis presque 10 ans de les injections de Zoladex, bien plaisant, tous les 3 mois. Une seringue numéro 18. Vous connaissez les numéros? C'est grand. Et puis, 3 mois plus tard, et voilà, j'y suis. Et je loue le Seigneur pour chaque jour. Alors, s'il faut être le doyen, je suis le doyen, allons-y dans notre étude. Mais je vois les gens qui ont cédé ou permis à leur corps de suivre les désirs de leur chair. Galates chapitre 5 et les versets. Oh, j'ai mis les petits morceaux. Oui, voilà, Galates. Ça va être Galates. Chapitre 5 et les versets 16 et 17. Alors, racheter le temps. Non, ça c'est... Oui, c'est ça. Excusez, 5, 16 et 17. Racheter le temps que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça fait du bon sens. Vous savez, si vous êtes croyant, vous allez vivre combien de temps avec le Seigneur au ciel? Éternellement. Pour l'éternité, vous allez vivre combien de temps ici? Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, comprenez quelle est la volonté du Seigneur, puisque c'est lui avec lequel vous allez partager le ciel. Alors, c'est important, mais pour certaines, ils ont cédé le contrôle à d'autres choses. Éphésiens 5 oui, les versets 16 et 17 étaient dans Éphésiens. C'était pas les versets que je cherchais, mais je l'ai ici. Oui, marchez sur l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit on a contraire à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. Et comme ça, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et c'est même le grand apôtre Paul qui a dit, ce que je veux faire, je fais pas. Et je pense, est-ce que vous pouvez dire ça? Moi, je le dis souvent. Pourquoi je fais cela? Pourquoi je dis cela? Pourquoi je pense ça? Seigneur, pardonne et reprendre le contrôle de ma vie, puisque souvent nous faisons les choses que nous voudrions faire, mais puisque nous avons cédé le contrôle à quelque chose autre que le Saint-Esprit, nous allons faire les choses. Grande chose à faire, c'est deux choses. Les deux sont les drogues, mais c'est l'alcool et les drogues. Alors, je suis pas contre tout l'alcool. Personnellement, je m'en abstiens. Mais la Bible ne condamne pas l'alcool, ça comprend l'ivresse. D'être pacté, c'est un péché. D'être continuellement pacté, d'avoir un style de vie de trop d'alcool, indique que simplement l'esprit n'est pas au contrôle, peut-être que vous n'avez même pas l'esprit dans la vie. Et donc, vous faites les choses que vous ne voulez réellement pas faire. Mais vous ne pouvez pas faire autrement puisque vous avez donné le contrôle de votre vie à quelqu'un d'autre. C'est comme si j'étais un auto, je m'appelle, nous étions en Afrique et j'avais une camionnette Volkswagen et Marc a dû avoir peut-être 10 ans. On allait sur un petit chemin de brousse et je dis, Marc, prends le volant. Alors, il ne pouvait pas zigzaguer trop puisque j'étais dans le sable et comme vous êtes dans le sable, les roues suivent la piste des autres véhicules dans le même sable. Vous risquez par exemple de sortir. Mais j'avais donné le contrôle. Alors, n'oubliez pas que j'avais la main toujours pour la clé. J'avais la possibilité de mettre ma main sur le volant. Mais j'ai donné le contrôle du véhicule à un autre. Et rien n'est arrivé. Il est meilleur conducteur que moi maintenant. Alors, donc, Attention à cela, puisque ça influence le mariage. Combien de mariages ont été démolis parce que l'un ou l'autre ou les deux auront cédé le contrôle du mariage à la drogue, à l'alcool, au jeu de chance, et la liste est longue de tout. Alors, le mariage, c'est entre deux personnes qui deviennent une seule personne. Et ça, c'est important. Est-ce possible que les vraies croyances se comportent comme des incrédules? Bien sûr. Mais nous devons combattre contre la chair et les influences de la société. Je ne vais pas prendre le temps de lire ce que Paul disait en Romains chapitre 7, mais c'est lui qui a dit « Ce que je ne voulais pas faire, je fais. Ce que je voulais faire, je ne fais pas. » Pourquoi? Il y a en moi quelque chose avec lequel je dois lutter. Et dans un autre passage, Paul parle de discipliner sa vie. Alors, il y en a ici qui réellement disciplinent leur vie. Vous courez 5 kilomètres par jour, 10 kilomètres par jour, vous contrôlez ce que vous mangez, est-ce que vous contrôlez ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous cherchez sur l'Internet? Vous tout contrôlez. Puisqu'il y a lutte dans le monde. Pour les incrédules, pour les gens qui croient en Jésus-Christ, il y a quand même la lutte. Le diable veut réellement nous démolir. C'est son but. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit en nous, nous pouvons être vainqueurs. Nous sommes vainqueurs, puisque c'est pour cela que Paul a ajouté plus tard, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Jésus qui a pris nos péchés, mais nous devons suivre. Alors, excusez. La Bible nous assure d'une victoire à portée de main. Voilà l'épée. On appelle ça l'épée. Oh, ça peut être AK-47 ou quel est l'autre MP, quelque chose que les militaires utilisent. C'est puissant, ça. C'est puissant. Cela a pris mon père qui est sorti de l'armée. L'âge de 24 ans, à peu près comme ça, un alcoolique, un bagarreur. Et puis, le Seigneur, dans un rêve, lui a montré un vieux pasteur qui disait, c'est comme cela que le Seigneur Jésus a été crucifié pour vous. Et papa dit qu'il est sorti de son lit, tombé à genoux et disant, Seigneur, je savais cela, pardonne. Et puis, il est allé à l'école biblique, devenu pasteur pendant des années, des années, des années. Et donc, je n'ai jamais connu un père alcoolique. Je n'ai jamais connu un père brutal ou bagarreur ou méchant. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit était dedans et basait sa vie sur la Bible. Il faisait son ministère avant. Maintenant, on fait des conseils à tout le monde. Et puis, les relations d'aide, tout cela, c'est à la mode. Mais papa avait sa manière de le faire. Un couple vient avec des problèmes dans une famille, dit, regardons ce que dit la Bible, ce que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce que dit la Bible? Il dit, vous voyez ça? Oui. Faites-le. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oh oui, mais on peut donner des conseils, ne faites pas ceci. Lisez la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Aimez votre femme comme vous-même. Madame, respectez votre mari et par-dessus ça, l'aimez aussi. Et c'est la meilleure psychologie du monde. Ça s'appelle la psychologie nouthétique, à peu près de ça, de nos jours. Mais c'est simplement, que dit la Bible? Lisez. Oui, mais je pas. Ok, continuez, mais que dit la Bible? Alors, mon arrière-plan un peu, pour vous montrer pourquoi je suis comme je suis. J'avais le même début, le même départ que tout le monde. Je suis né pécheur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, même début, j'ai pu faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Je suis revenu de l'hôpital à la maison, paraît-il, dans un Ford Model T. Trois pédales, pop, pop, pop. Est-ce qu'il y en a ici qui ont conduit ou fait une petite promenade dans un... Moi, j'ai fait des promenades. Oui, voilà. Oui, mon voisin sur l'île du Prince Edward travaillait pour le garage Ford. Il m'a fait promener dans une Ford Model T. Deux vitesses en avant, pousse le pédale au fond, c'est ça, le Ford Model T. Marche arrière, c'est une autre pédale, l'autre c'est le frein. Oui, et le nôtre c'est tirer sur le poignet, ça met frein et ça débraye, ça déclutch. Mais c'est ça débraye l'affaire. Alors, donc j'avais le même départ, mais à 12 ans et 6 mois, j'ai cru en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Oh, j'avais été élevé au presbytère, dans la maison d'un pasteur. Mais papa était garçon autrefois. Il savait ce que font les garçons, il était patient, il essayait de m'instruire selon la Bible, mais il n'a jamais tordu la bras. Fiston, c'est le moment de croire en Christ. Il a laissé Dieu travailler dans mon cœur. Donc, ça a pris 12 ans et 6 mois. Et Jésus est devenu mon sauveur. À l'âge de 14 ans, j'étais baptisé. Puis, j'ai commencé mes études au lycée technique. Et ça, c'était toute une expérience. On vivait avant dans une sorte de quartier de classe moyenne, des gens plutôt respectables. Tout le coup dans un lycée technique avec 1600 garçons. Et la plupart venant de la deuxième génération des parents qui sont venus aux États-Unis pour chercher. Donc on avait des gens de souche allemande, polonaise, italienne, tous des catholiques pratiquants. En ce temps-là, on allait à l'église ou bien. Ça c'est, je parle des années 40, au début des années 40. Et de l'autre siècle pour les jeunes ici. Mais il y avait aussi des juifs, quelques luthériens, quelques méthodistes, je le savais puisqu'on faisait en ce temps aux États-Unis des cours religieux en dehors de l'école. Rien de religieux dans l'école, on avait tout. Mais on donnait une heure par semaine à aller à une église de proximité, dans mon cas une église luthérienne, où un pasteur nous enseignait l'histoire de l'Église, l'histoire de la Bible, quelque chose pas évangélique, mais il y avait des luthériens, des méthodistes. Mais mon conseiller scolaire était bien gentil, un méthodiste pratiquant. Et dans ma dernière année de l'école, je suis allé demander une lettre de référence pour l'admission dans un petit collège dans le sud des États-Unis, appelé en ce moment-là à l'université, Brian. Et il dit, mais pourquoi vous voulez aller là? Pour devenir missionnaire. Ouf, il a presque arraché les cheveux, dont il n'avait pas beaucoup. Alors, missionnaire, mais vous savez, pourquoi gaspiller votre vie comme ça? Vous avez fait 4 ans ici, aller à l'université en génie, vous allez sortir. Non, je me sens appelé à devenir missionnaire. Mais pourquoi? Puisqu'à 17 ans, suite à une présentation missionnaire, on invitait les jeunes assiernés ici qui veulent réellement donner leur vie pour la mission. C'est tout de suite après la guerre. On n'a pas eu des gens sur les champs de mission. Les champs étaient vides ou les gens étaient même en Afrique dans les camps de concentration pour avoir été faire plaisir aux Allemands plutôt. Mais la guerre venait de cesser. Les champs de mission étaient ouverts, mais il manquait des jeunes gens pour y œuvrer. Et le directeur de la mission était un ami de mon père. Ils avaient fait le collège biblique ensemble. Un homme de souche syrienne. Deuxième génération de Syriens. Monsieur Farley, dit, est-ce qu'il était un peu comme ça? Oui. C'est ça. Pas de dispute. C'était bon. Toute la mission fonctionnait comme ça. C'est comme être dans l'armée, vous savez, dans la mission, pouf, pouf, pouf. Même pour le mariage, il fallait faire un an de service sur le champ de mission avant de pouvoir se marier. J'ai appris ça, je savais pas ça, mais j'ai appris ça. Lorsque je suis fiancé, on dit, mais vous savez, faut compléter un an de service avant de vous marier. Alors, et c'était bon. Moi, j'aime la discipline quand les autres me l'imposent, puisque moi-même, je suis faible. Je pourrais me laisser aller, mais heureusement, il y a la police, il y a ma femme. Oh, elle est douce, mais elle est demande-moi. Quand maman parle, mais avec amour, avec douceur et pour notre bien-être. Et j'aime ça, j'en ai besoin et Dieu le savait. Alors, donc je suis allé, j'avais fait deux ans de français au lycée, mais tout le français écrit, vous savez, apprenez à conjuguer les conjonctions, tout cela. Et puis, au collège, j'en ai fait deux autres grammaires françaises et puis un an de littérature. Alors, ça ne m'a pas tellement impressionné. Je pensais que les auteurs français étaient plutôt des gens pauvres qui écrivaient n'importe quoi pour avoir quelques sous à boire encore plus. J'ai dit ça même au professeur qui n'aimait pas mon appréciation de la littérature française. Mais, donc, j'avais cela. Et puis, au 1er mars 1951, je suis embarqué, oh, joie de ma vie, sur la SS Foria, un bateau presque neuf, un bateau francophone, un paquebot de 12 000 tonnes. Et c'était ma plongée dans la langue française. Le capitaine Morisset, je m'appelle son nom après toutes ces années, Morisset dit, ici nous sommes sur un bateau français, nous allons parler français. Oui, bonjour monsieur. Alors, peut-être c'était à peu près la limite de mon français parlé. Mais je suis parti, c'est une aventure de 21 jours, il y avait un ouragan, il y avait toutes sortes de choses, mais on était sur un bateau. Alors, suite aux 2 mois en Algérie et mon initiation à l'islam, je suis parti pour Paris pour étudier le français à l'Alliance française. Et donc, je suis arrivé au Niger, dans l'Ouest africain, le 15 novembre 1951. La plupart de vous n'y étaient pas. Vous n'êtes pas encore nés en 51, quelques-uns d'entre vous. Mais arrivant au milieu de la nuit, dans le premier vol d'un DC-4. Qui peut se rappeler d'un DC-4? Combien le moteur? DC-4, 4? Puisqu'avant, tous les vols étaient les DC-3. 2 moteurs. Et on arrive dans la nuit, tous les autres vols arrivaient le jour. Pour allumer la piste, on avait des pots en fonte avec de l'huile dedans et une mèche et des... Oui, ça va. C'est le tapis imperméable. Je parle comme un français de Paris avec mes mains. Il faut que les mains bougent, alors attention. Alors, non, et donc, il y avait évidemment personne, la mission m'a rencontré. L'avion arrive, oui, tous les avions arrivaient vers 8h, 9h le matin. Donc, j'embarque pour aller. Air France a été bon pour me mettre dans l'hôtel. Encore une expérience pour moi, puisqu'il faisait chaud. Pas d'électricité de nuit, pas de climatisation. Donc, à la lumière d'une petite lampe à pétrole, on dit, voilà votre lit sur la galerie qui entourait l'hôtel. Donc, je me réveille le matin, madame là, moi au milieu, c'était comme ça. Alors donc, heureusement, je me suis endormi complètement vêtu. Et donc, chercher et le gars dit, je connais où est la maison de la mission, m'y a conduit. Mon initiation à la vie au Niger. Mais donc, ensuite, le directeur de la mission m'avait conduit à la station de Yantala, à 8 kilomètres de la ville,
Et il m'a montré mon logis, une grande chambre dans une ancienne case en banco. Banco, c'est un bon mot français qui veut dire glaise séchée au soleil. Des briques banco sont solides. Il y a la glaise, il y a la paille, et il y a la crotte des ânes. Tout mélangé ensemble, à pied, les gars. Est-ce que vous avez vu ça? Chez vous, là? Oui, c'est ça. Et ça fait une brique solide, là, s'il pleut pas. S'il pleut pas. Quel rare. Et donc, c'était mon logis pour, jusqu'au jour de mariage, et puis, entre moi, il y avait une famille à côté d'une ancienne maison qui avait trois grandes chambres et une galerie qu'on avait enfermée. Donc, il y avait monsieur et madame Bechtel qui vivaient à côté. Otto était le constructeur, Hélène enseignait le dialecte Zarma. Zarma, qu'est-ce que c'est? Fofo, Kenibani, Watabani, Puibani. Vous voyez, on apprend tout cela. Et puis, j'étais aussi attaché avec Otto à la construction, et quand vous avez toute l'équipe qui parle pas un seul mot de français, vous apprenez vite la langue. C'était la meilleure initiation. C'est le, comment envoyer quelqu'un chercher un outil où tous les outils s'appelaient par le mot guru, qui veut dire faire. Bon, c'est un guru long, c'est un guru pesant, c'est un guru avec une poignée. Et puis, il venait souvent, patron, j'ai rien trouvé. Alors, donc, c'est comme ça qu'on apprend la langue. Il y avait la même chose avec l'huile. Il y avait l'huile de table, il y avait l'huile moteur, il y avait l'huile, mais il fallait ajouter parce que tout était ghee. Moto ghee. Il y avait haugi, haugi, c'est la vache. Il y avait le ghee de vache, le ghee de moto, le ghee de ceci, le ghee de cela. Intéressant la formation. Mais ce qui était plus intéressant, nous avons fait le tour de la station, et puis il y avait la petite église, et Mme Bechtel a dit, je veux que vous rencontrez Mme Turner. Ok, Mme Turner, c'est qui? Mais elle est professeure de l'école, elle a ouvert la première école dans cette région. Et on servait dans la petite église, j'entrais dedans, ouh, cheveux, ouh, mince, élégante, 22 ans, merci Seigneur, enfin. Mais Madame Bechtel m'a dit tout de suite, écoutez Roger, nous sommes dans un pays musulman. Vous n'entrez pas ici pour parler à Madame Turner, Phyllis, sans avoir quelqu'un avec vous. Vous êtes au pays musulman. N'y touche pas. Ne lui serre pas la main. Ne marche pas main en main. Ne fait rien. Vous êtes dans un pays musulman. Oui. Ça, c'est bon. C'est comme ça qu'on se connaît, n'est-ce pas? Garde la distance puisque je suis peut-être infecté. Enfin, Dieu a dû avoir son plan, car 10 mois plus tard, je lui ai demandé de devenir ma femme. Et elle m'a dit simplement, en 24 heures, je donnerai la réponse. Devinez quelle était sa réponse. Nous y sommes encore après 61, un an et demi. Et elle a dit oui, pourvu que ça ne compromet pas ma mission. Et ça a été vrai pour nous deux. Oui, il y avait l'amour, il y avait l'attraction physique, mais il faut pas que ça nous écarte notre but. Notre but, c'est de gagner les gens pour Christ. Pour moi, c'est de faire les visites au village, de prêcher l'évangile, c'est compréhensible dans leur langue. Pour elle, c'était d'apprendre aux 13 petits garçons qui étaient là. Ils étaient là puisque le commandant français est allé au village en disant au chef, je veux 10 enfants pour mettre à l'école. Ah non, mais ça c'est les enlever de la main de Allah. Non, c'est pour apprendre le français. Et puis d'aller dans un autre village, pu ramasser 3 autres, donc elle a commencé avec 13 garçons. L'école maintenant est entièrement dirigée depuis des années par une équipe africaine, plus de 600 élèves, et les meilleures notes dans toute la région. Même le président du Niger a envoyé dans le Mercedes chaque matin son petit-fils pour aller à l'école de la mission, puisque l'instruction était meilleure que dans les écoles de la ville. Alors, c'était impressionné de voir la petite école de la mission. Nous avons les maisons Banco anglaises, et le Mercedes entre avec le chauffeur, avec la casquette et tout. Mais ça a ouvert la porte. Et maintenant, il y a des jeunes croyants élevés dans l'école. La classe de religion n'était pas obligatoire, mais c'était tellement intéressant que les jeunes venaient demi-heure plus tôt, chaque jour, pour apprendre des versets de la Bible. Et c'est eux maintenant qui, la plupart sont à la retraite, cette première classe, mais c'est eux qui sont allés dans les branches du gouvernement, par-ci, par-là, et ça a dû faire une influence dans cette région. Donc Dieu avait son plan. Alors, et réellement, d'apprendre à se connaître, on se parlait chaque jour. Les murs de la petite église étaient larges. Tous les murs étaient larges d'un mètre. C'est beaucoup de glaise, mais solide. Et puis, pour empêcher les élèves de regarder ce qui se passait à l'arrière, j'avais mis une feuille d'aluminium au bon milieu. Donc, j'avais 50 centimètres de mon côté. Elle était à sa table. Elle n'était pas à l'autre 50 centimètres. Ça aurait été mal vu. Elle était à l'intérieur, donc elle me donnait 15 minutes chaque jour. Si j'ai des leçons préparées, rien n'était préparé. Elle a dû tout faire elle-même. Et vous dites, oui, mais comme ça, comment se connaître? Comment vous pouvez pas faire des sorties et des soirées dansantes et tout cela? Nous y sommes, 61. Pourquoi? Puisque le but, c'était de servir Dieu. Le but, c'était de s'aimer mutuellement. Le but, c'était d'élever une famille à la gloire de Dieu. Et en fixant le but, Dieu, par son esprit, nous a aidés. Alors, quel est le secret? Mais c'est l'amour et le respect l'un de l'autre et à l'aide de Dieu, un jour à la fois. Quelques-uns d'entre vous, peut-être, ont passé une mauvaise journée dans la semaine. Parfois, la chicane s'éclate dans la maison, parfois d'autres choses. Ouf, je peux pas continuer. Si, vous pouvez continuer un jour à la fois. C'est ça le secret. Et avant même le savoir, vous y êtes. La base de notre mariage, c'est comme un triangle vertical. Imaginez. Dieu ici au sommet, moi de ce bord-ci, ma femme de ce bord-là. Alors, qu'est-ce qui arrive avec un triangle comme ça quand vous montez? Montez, la différence est moins longue. Plus que vous montez vers Dieu, plus vous vous rapprochez ensemble. Cette illustration est vieille, beaucoup de personnes s'en servent, mais c'est vrai, plus que vous vous approchez de Dieu, plus vous vous rapprochez l'un de l'autre. Et rappelez ça. Alors, notre vie de couple en mission. Recueillement personnel à 4 heures du matin. Pourquoi 4 heures? Puisque au Niger, les journées étaient normalement 12h30, 13h. Il y avait seulement 1 heure de différence entre les saisons. On était assez près de l'équateur. Alors donc, à 4 heures, il faisait noir, à 6 heures, il faisait déjà le jour, et les gens étaient là, demandaient des services, demandaient de l'aide, demandaient ceci. Alors donc, on s'est levé à 4 heures, j'escorte Phyllis à l'école avec une petite lampe à pétrole. Et Dieu nous protégeait. Un jour, je marchais et je fais... Ah, oui. C'est un petit bébé que je l'avais tué par mépris, un petit bébé cobra. Sa maman, si elle était là, il était 2 mètres de long. Mais il traversait la piste et squish, il n'y était plus. Et c'est, donc je laissais ma femme à l'intérieur de l'école, je retournais à la maison et chacun faisait le recueillement. Et puis, on prit en couple le matin, suite au petit déjeuner. Et lorsque les enfants sont venus, on avait le recueillement en famille le soir. Est-ce que vous avez un recueillement chez vous, avec votre femme? En même temps, vous priez à haute voix ensemble. Je parlais à un pasteur qui... Mon père était pasteur dans la dernière église pendant 23 ans. Et puis, celui qui l'a suivi était bon, mais il est parti. Et puis, un jeune est venu. Ouh! L'église commençait à aller vers le fond. Lui et sa femme, paraît-il, se détestaient presque. Et puis, en lui parlant, je dis, mais est-ce que vous avez prié ensemble?
Jamais. Je ne priais jamais avec ma femme. Elle prie avec Dieu. Moi, je prie avec Dieu. On ne prie jamais ensemble.
Ça se comprend? Pourquoi le mariage et l'église? Aller vers le fond. Et si vous n'avez pas cette habitude, mais je serais embarrassant d'exprimer. Vous n'avez pas besoin d'exprimer toutes vos pensées. Il y a certaines pensées, si ça touche pas aux autres, que vous exprimez à Dieu, vous demandez pardon à Dieu, et entre vous et Dieu, la peut-être réglée. Mais en prière, on prie pour les autres, pour les malades, pour les gens prient pour l'église du sentier et toute une liste des églises, mais on peut prier ensemble. Et ça renforce. N'oubliez pas, dans le mariage, nous sommes un. Alors c'est bête d'avoir la moitié d'un corps qui prie ici, la moitié d'un corps prie là. Pourquoi pas mettre le corps ensemble pour cela? Et vie de couple à la maison, des politesses mutuelles. Merci, merci chérie. S'il te plaît. Oh, je regrette, pardonne. Est-ce que vous parlez comme ça? Combien de fois par jour vous remerciez votre femme pour son repas réellement délicieux? Et si ce n'a pas été à votre goût, merci pour avoir préparé. J'oublie comment Marc a dit, Phyllis a dit, que en Afrique, on n'avait souvent pas des ingrédients. Pour un séjour, on était en brousse, à 160 kilomètres de la ville. Je faisais un voyage par mois à la ville. Et parfois, il n'y avait pas de sucre, il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas de ci, cela. Alors, elle a dû faire quelque chose. Et comment Marc avait dit ça? Oui, c'était bon, mais ne le fais pas encore une autre fois. Honnête. Alors, mais les politesses mutuelles, et puis souvent dans la journée, je t'aime. Ma femme dit souvent, si un mari aime sa femme comme son propre corps, la femme devrait l'aimer de tout son corps aussi. Mais j'entendais une émission à la radio autrefois, et on disait aux hommes, il faut de temps à autre dire à ta femme que tu l'aimes. De temps à autre. Moi, je dis souvent, puisque je l'aime. Et elle m'aime. Et pourquoi? C'est pas parce que je suis beau. L'âge, comme vous avez vu dans la petite vidéo, là, l'âge peut faire tout un accident sur nos figures, nos visages. Mais et Phyllis dit aussi, la soumission est volontaire suite à l'amour du mari. Nous reconnaissons que nous formons un seul corps et nous sommes dotés de dons différents mais complémentaires. Ma femme, je l'appelais autrefois la petite bougie. pas la bougie chandelle, mais la bougie dans l'auto. Vous savez, quand la bougie fait étincelle, qu'est-ce qui arrive? C'est ça qui fait marcher l'auto. Vous avez un moteur dans votre auto parfait, sauf qu'il n'y a pas d'étincelle dans la bougie. Alors, puisque elle dit, chérie, j'ai une petite idée. Ok, quelle est ton idée? Elle donne joyeusement son idée. C'est à moi de le confectionner. Mais tu as fait l'école technique, tu aimes bricoler, c'est vrai. Et donc, c'est elle. Moi, je suis pas un inventeur. Donnez-moi votre plan, donnez-moi vos idées, je peux les mettre en réalité. Mais de concevoir quelque chose, je vois un problème, je peux concevoir comment résoudre le problème avec mes deux mains. Mais ma femme sort des idées de sa tête. C'est elle. Et je les respecte. Et puis, ça fait un défi parfois pour les appliquer. Et nous savons aussi, 1 Pierre 3:7, je vais lire ça. Je suis conscient que ça passe et je vous donne un temps pour les questions peut-être. Mais 1 Pierre 3 et 4, 3 et 7. Marie, montrez votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et on s'est dit entre nous, nous n'allons jamais nous endormir avec quelque chose entre nous. S'il y a un problème, on le discute, on l'arrange, mais on va pas faire semblant de s'endormir avec un différent entre nous. Et c'est ça qui aide énormément. Et je dis à ma femme parfois, il faut résoudre ceci, car sans cela, je peux pas prêcher au lendemain matin. Est-ce que la vie était tout en rose? Oui, mais parfois les roses dessèchent un peu et il faut les arroser avec la parole et puis la vie reprend. Mais il faut aussi se rappeler de vos vœux de mariage. Il y a un vœu souvent oublié dans la maladie et dans la santé. Il y a parmi les couples qui veulent éliminer cette phrase, le mariage, non? On se marie dans la maladie, pour la maladie et pour la santé. Depuis notre arrivée en Ontario en 2008, Phyllis a fait 103 jours d'hôpital, à 3 reprises, 3 choses différentes. Et je lui ai rendu visite pendant 102 jours. Un jour, je pouvais pas le faire. Je pense que j'ai demandé à Marc de me remplacer. Il venait quand même de son propre initiative, mais elle a eu la visite de Marie tous les jours sauf un. Et de sa part, vous savez, quand le docteur dit, oh, votre PSA, c'est un peu élevé. On a commencé mes traitements lorsqu'on était sur l'île en 2002. 7 semaines de radiation. Et j'ai dit, mais c'était à Moncton. Moncton était quoi, 150 kilomètres de Summerside. L'île du Prince-Édouard était trop petite pour avoir la machine pour la radiation. On dû aller à Moncton pour le faire. Donc on va là, lundi matin, on retourne vendredi après le traitement. Et Phyllis a insisté à m'accompagner à toutes ces semaines. Alors, donc, elle n'avait pas besoin de faire ça, elle voulait faire ça. Et puis, elle se plaint pas du tout de mon manque d'énergie. Vous savez que je me fais un défi de rester debout, comme ceci. C'est bon, je dois discipliner ses jambes. Mais je prends des injections de Zoladex à tous les 3 mois qui enlèvent toute votre testostérone. Donc imaginez-vous sans testostérone. Mon problème maintenant, c'est que le testostérone commence à revenir. Et donc on a fait des CT scans, on a fait des scans nucléaires 4 fois cette année déjà pour essayer de discerner d'où vient. C'est mauvais. Je sais pas comment les personnes, pas les cellules, mais d'où vient le testostérone? Pourquoi son corps reprend le pouvoir? J'aime ça bien, je me sens mieux, mais j'ai peur des amis assez souvent à cause de ça. Et qu'est-ce que ça fait dans votre mariage? Absolument rien. C'est comme si rien n'est là, on s'aime, on s'adapte. Et l'argent aussi est souvent la base des mésententes. Vous savez, la vie missionnaire nous a aidés, puisque il y a une chose dans la mission, garder les pauvres et son fidèle. Je sais pas d'où est venue cette idée, les églises même en avaient ça. Faut pas que les missionnaires aient l'apparence aisée. On va couper le soutien. Non, l'idée c'est qu'il y a une certaine somme d'argent qui vient. Et plus le style de vie est réduit, plus nombreux seront les missionnaires avec le même sac d'argent. Ça nous a aidés, mais on a toujours une seule bourse. Je connais des familles où madame a son compte en banque, monsieur a son compte en banque, et n'y touche pas, on n'est pas signature l'un et l'autre, ça c'est à moi, s'il vous plaît. Non, pour nous. On avait une bourse. Et puis un budget. Pourquoi le budget? Simplement puisqu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Comme ça, la dîme est numéro 1 dans le budget. On l'avait tout de suite. Ensuite, les coûts de la maison, les coûts de l'auto, tout. Et ça donne tellement de repos puisque jette un coup d'œil. Ah oui, on peut acheter ça, on peut acheter ça. Il y a l'argent mis de côté. Au lieu de tout gaspiller sur quelque chose de luxe, et puis trouver que le compte est vide. Avec le budget, moi je tiens ça sur l'ordinateur, et puis c'est très facile. Mais je vais terminer ce matin avec une petite étude d'Éphésiens 5. Tournez dans vos Bibles, Éphésiens chapitre 5. Versets 25 à 33, mais on ne... Je vais pas toucher à tous les versets. Mais il débute le chapitre 5 en disant « Devenez des imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. » Est-ce qu'il y en a ici qui auront imité leur père? Moi, je trouve que... Souvent, je fais quelque chose, je dis, papa faisait ça, papa disait ça. Si vous avez un bon père, mon fils parfois, je ne sais pas si moi je fais ce qu'il fait ou il fait ce que moi je fais, mais on ne peut pas, pourquoi, puisqu'on vient d'un seul corps. Alors, devenez des imitateurs de Dieu. Mais, il vise beaucoup de choses dans ce chapitre, et au chapitre 6, mais il vise aussi la famille chrétienne comme une illustration du rapport entre lui et son Église. L'Église, dans la Bible, si vous ne l'avez pas lu, ça dans vos Bibles, l'Église est appelée l'épouse de Jésus-Christ. Imaginez, moi je suis un homme, mais ça va, je fais partie de l'Église, qui est simplement le groupe qui l'a sauvé, et il est le chef ou le mari. Et c'est un mari qui a tout donné, qui a donné sa vie, qui pourvoit, qui protège, qui planifie, et déjà qui nous invite à passer l'éternité avec lui. Alors, que chacun aime sa femme, verset 25. Marie, j'ai sauté femme, que chacun soit soumise. On va peut-être y revenir, mais les madames n'y sont pas, donc je les épargne. Mais Marie, que chacun aime sa femme comme, Mais si vous soulignez les choses dans vos Bibles, soulignez le mot « comme ». Souvent des maris, il faut pas aimer votre femme comme le mari vedette à la télévision et sportif, où il y a des bons footballeurs qui aiment battre leur femme pour montrer qu'ils ont des muscles. Or, j'aimerais un jour qu'il arrive que la femme fasse un entraînement aussi pour lui donner un coup de retour qui va... Mais enfin, non, je veux pas une chicane en famille, mais je trouve que c'est absolument inimaginable pour qu'un homme touche une femme plus faible. Quel lâche. Quelle couardise. Ça mérite pas. On lui mérite simplement de suspendre et chacun lui donner un coup de pied quelquefois. Mais enfin, ça arrive dans la vie puisqu'ils n'ont pas le Seigneur dans le cœur, mais ils disent ici, aime votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il est allé à la croix. Vous savez, Paul se sert là du mot agapao. Le grec a vraiment quatre mots pour parler le mot. Trois sont utilisés le plus souvent, deux seulement dans la Bible. Agapao qui veut dire un amour inconditionnel. Aime ta femme, oui, je l'aime, mais elle... Non, non, non. N'importe quoi qu'elle fait, aime-la. Inconditionnellement. C'est un amour sens unique. Je l'aime puisque je l'aime. Oui, mais elle vous aime pas. N'importe, moi je l'aime. Avec mon agapao, avec mon amour inconditionnel. Et puis, Paul a dit... Il utilise le mot six fois dans ces versets, comme Christ a aimé l'Église. Et monsieur, l'arrivée a mentionné le mot Jean 3,16. Oui, c'est le même mot, agapao. Mais il y a un autre mot, phileo, c'est l'amour réciproque, fraternel. Je vous aime. Réciproquement, il y a des choses entre nous, on est ici ce matin. Quelle joie. Donc, on s'aime, mais je ne dis pas que je vous aime inconditionnellement. Je vous connais pas assez bien pour ça. Et même si je vous connais parfois, un pasteur aime son église inconditionnellement. On n'aime pas tout ce que les membres font. On a des soucis pour eux. On sait parfois qu'ils courent vers le désastre. Mais on les aime juste au moment de passer les veilles. En priant pour eux. Mais Paul ne parle pas de cet amour réciproque à part aux quelques groupes. Mais en Tite 2,4, et je coupe quelques lignes ici pour nous sauver du temps. Tite 2 et 4. Oh. Ok. Que les femmes doivent être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, soumises à leur mari, mais qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est une autre pensée, mais je vous dis que je vous épargne ce matin les femmes. Les femmes soumises, je vais parler de ceci, les gars, ça ne veut pas dire qu'elle est votre esclave. Ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure par même un millimètre. Elle est votre égale et fait partie de votre corps. Et si vous n'acceptez pas votre femme comme faisant votre meilleure partie du corps. En anglais, on a une expression « better half ». Est-ce que vous connaissez ça? Votre meilleure partie. On appelle la femme parfois « c'est mon better half ». Ma meilleure partie. Alors, si vous regardez votre femme comme inférieure à vous, vous allez boiter dans votre vie tout en marchant debout. Votre femme est votre égale. Elle a des dons différents, des idées différentes. Mais aimez-la et vous allez voir les changements. Mais, oui, en Tite 2,4, c'était que... Paul exhorte les femmes âgées à prendre aux jeunes femmes à aimer philéo, leur mari et leurs enfants. Vous savez, en ces jours-là, autant Paul écrivait, la femme était... C'est comme en Afrique de nos jours. Au Niger, une vache est plus valable qu'une femme. Une vache pourrait coûter plus cher qu'une deuxième femme. Au Bénin, on avait un couvent voodoo, juste en face de notre petit appartement. Et c'est là où, quand les dames ont été chassées de la maison, divorcées, allez-y, ok. Elles allaient au couvent, attendant qu'un autre acheteur, c'était comme pour les autos d'occasion, les autos usagées, il y avait le couvent pour les femmes usagées, bon marché. Et puis ça aide à préparer les ouvrages autour de la maison. Alors donc, les femmes, en devenant chrétiennes, parfois ne savaient pas comment se comporter. On est libre, on nous dit que nous sommes libres en Jésus-Christ, que nous sommes l'égal de nos maris, que nous allons ensemble au ciel. Donc voilà, déplace-toi, c'est moi qui règne maintenant. Et Paul avait ce problème avec l'église de Corinthe, il avait ce problème évidemment où Tite était pasteur. Les femmes ont dû apprendre à aimer le mari. Et les femmes âgées avaient cette mission de leur donner un modèle d'amour réciproque pour que les deux fonctionnent ensemble. Alors, même dans notre famille, ma femme est mon meilleur ami. Et je suis la sienne. J'aime mes enfants avec un amour agapé. Mais il y a un rapport philéo entre nous aussi. Nous aimons être ensemble. C'est lorsque toute la famille est là pour une fête, un anniversaire ou autre chose, est-ce que ça donne un bon sentiment quand vous êtes ensemble? C'est l'amour réciproque qui circule entre vous deux. Mais le grec a un autre mot pour l'amour. Qui le connaît? Ce n'est pas dans la Bible, mais le Cantique des Cantiques exprime les mêmes sentiments de ce mot. Il y a philéo, il y a agapé, il y a eros. Eros. D'où vient le mot français érotique? Eh oui. Et quel est le mot? Quelle est la façon d'aimer, je crois, le plus souvent visé de notre temps? L'amour agapé, l'amour réciproque ou l'amour érotique? Oui, les annonces, les émissions de télé, tout cela, tout est basé sur la forme et la figure, sur l'éros, sur l'érotique. Et vous savez, ça ne dure jamais longtemps. Un mariage basé sur l'érotisme ne va pas durer. Je vais vous dire ça. Pourquoi? Puisque vous commencez à 18 ans, et puis un de ces jours, vous aurez 58 ans, et puis 78 ans, et ainsi. Et les cheveux deviennent blanches, et le pédale devient plus grand. Oui, je vous visais. Et puis, non, c'est ça. Et si c'est simplement un amour érotique, c'est fini. Pourquoi les gens, à 40 ans, commencent à chercher une femme plus jeune? L'érotisme. Oh, ma vieille, là. Non. C'est votre femme, c'est votre meilleure partie. Et si vous êtes chrétien, ça me blesse au cœur quand j'entends qu'il y a des gens dans l'église qui se divorcent. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en Jésus-Christ, il est mort pour vous. Ne pouvez-vous pas tolérer peut-être cette petite habitude ou ce désir ou autre et discuter ça amicalement en priant Dieu de vous bénir ou de vous... Pensez-vous que ça sera mieux avec une autre? Je vais vous dire, les deuxièmes ne marchent pas. Le troisième non plus, ceci est fragile, pasteur. Voilà. J'ai l'habitude d'une grande chair en chêne. Ah! Pasteur, est-ce que vous avez eu une grande chair en bois? On peut avoir toutes sortes de choses cachées en dessous, les mouchoirs, les pilules, les autres. Mais quelque chose de, quelque chose de solide sur lequel appuyer les bras, là. Voilà, je vais vous dire qu'un mariage érotique ne dure pas. Cherchez même pas. Demandez à Dieu de vous donner un amour inconditionnel pour votre femme. Oui, mais elle ne pense pas comme moi. Aimez-la. Elle va commencer à réfléchir les choses avec vous. Oui, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et puis, dans un Corinthien, le temps passe, il est temps de cesser. Paul parle en termes nets, en disant, le corps n'est pas pour la débauche. Et puis au verset 18, il dit, fuyez la débauche. Oh, mais je peux le résister. Je peux aller là au bistrot, et je peux m'amuser avec les amis, et puis ma femme, elle reste à la maison, regarde la télé. Non. Vous allez vous mettre simplement dans le piège. Et la débauche, c'est comme un piège attrape-souris. On avait une petite souris qui nous a rendu visite en automne. Et puis, je lui ai fait une surprise. J'ai acheté des petites affaires en bois, vous savez, avec le ressort. Et notre fille était là, elle dit, mettre un peu de beurre de pinot d'arachide. Là-dessus, un peu de beurre d'arachide avec un bout de chocolat. L'ami est parti. Je ne sais pas où partent les souris mortes, mais elle est partie, vite. Pourquoi? Puisqu'elle aimait les petites choses qui ne devraient pas être dans sa vie. Donc, pour un bout de chocolat, un bout de beurre d'arachide, elle a perdu la vie. Mais vous savez, le diable sait mettre les pièges dans notre chemin. Donc, je vais sortir avec les gars. Non, mais ils ne sont pas croyants. Ben oui, ils sont des copains d'autrefois. Exactement. Exactement. J'ai eu un de mes petits-enfants qui m'a dit récemment, on peut pas, j'aurais pas dû sortir avec les gars au lycée. J'ai mal choisi mes amis. Je dis, combien sont allés à l'université? Aucun. Il dit, même il y a deux qui sont en prison. Heureusement, lui, le Seigneur l'a repêché, l'a remis sur le bon chemin. Mais c'est ça. Satan sait utiliser les gars et les filles pour vous entraîner. Donc Paul a dit simplement pas résister sur des bouches. Il dit, fuyez, vous êtes trop faible pour rester là pour lutter contre. Vous n'avez pas besoin de lutter contre. Mettez la distance entre vous. C'est de même avec les serpents en Afrique. On met de la distance parfois avec une petite carabine, là, en les visant. Je vais vous donner des longues histoires de ça. Avec une lampe de poche, on essaie de viser une tête qui balançait comme ça. Les serpents cracheurs, là, de nuit. Mais la meilleure chose, c'est de mettre un peu de distance. Plus long que leur corps. Lancez des roches, si vous voulez, les taper avec un long bâton, mais n'approchez pas pour faire comme, voilà, ça marche pas. Ça marche pas. De la distance entre vous et le péché. Et qu'est-ce que dire? Je vous donne deux moyens pratiques et on termine. Vous avez tous de l'internet, je pense, chez vous. Et moi, je suis pas expert dedans, mais j'avais mon premier ordinateur en 1983. Alors, donc, les petits... Oh, ça, c'était... comment ça s'appelait? C'était un 1000. J'oublie le nom. C'est la source qui a vendu ça. Mais, enfin, maintenant, avec l'Internet, je mets mon sécurité au milieu. Et je garde ça. Vous savez, j'ai jamais été troublé. Oh, mais il y a des choses qui ne peuvent pas dépasser ça pour venir... Ça va, j'en ai pas besoin de ça. Et d'autres vont plus loin encore, et les croyants, et les pasteurs évangéliques, pour chercher des petits plaisirs dans la pornographie sur l'ordinateur. Je peux pas imaginer. Mais oui, ils le font.
Ils le font, vous serez étonné de savoir combien de pasteurs ont dû quitter le ministère ou prêcher sans force simplement puisqu'ils regardaient les visages des... Ouf. Alors, c'est incompréhensible. Donc, tentez, disciplinez vos pensées. Et puis, je vais terminer, je vais sauter. J'ai mis deux paragraphes sur la soumission et direction dans le mariage, mais je laisse ça pour une autre occasion. Sautant pour la fin, la perfection mutuelle dans un mariage chrétien. Le Seigneur a dit au verset 26, afin de la sanctifier et en la purifiant et la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église, cette épouse, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable. Et les gens, combien de vous sont mariés dans une église? Oui. Est-ce que vous vous rappelez le temps où votre fiancé, en train de devenir votre épouse, paraît à la porte en arrière, tout vêtu dans sa robe blanche, tout resplendissant, oh, elle avait de l'aide à mettre tout en ordre, et vous attendez là les genoux qui se cognaient, l'un à l'autre en attendant, et puis elle avance. Mais c'est ça que le Seigneur veut. Il veut nous voir en venant vers lui pur, sans tâche, sans autre pensée, les yeux fixés sur lui. Et nous devons utiliser ça. Alors, ça, c'est sanctifier sa femme. Ma femme est sanctifiée. Elle a un but dans la vie. Le but dans la vie, c'est d'être ma femme, de servir le Seigneur. Donc, je la protège, je pourvois à ses besoins, et j'essaie d'être doux et de lui montrer que réellement, elle est mon amour, mon trésor, et toutes les autres paroles qu'on peut chercher. Et vous avez un mari honorable. Paul a dit, traite votre femme comme vous-même. Je sais, il y a des hommes qui se négligent. Il y a des hommes qui sont négligents dans tous les domaines. Mais il y a des hommes respectables. Si vous êtes respectable, vous prenez soin de votre corps, un homme chrétien, certainement va respecter sa femme et elle va lui respecter. Ils sont un en Christ. Et donc, un mariage comme une maison a besoin de l'entretien en tout temps. Marc arrange les choses avec nous pour qu'on ait une belle maison maintenant. En quittant l'île du Prince-Édouard, vous savez, avec le prix des maisons entre l'île du Prince-Édouard et Ottawa, il y a une petite différence. Ça coûte moins cher, n'est-ce pas, ailleurs. Alors donc, on a acheté un petit condo. À un moment donné, le condo n'avait pas de place pour un petit ascenseur. Et donc, Marc a dit, papa, il y a une maison en face. Donc, on arrange les choses entre nous. On a une belle maison, mais vous savez, même des belles maisons demandent de l'entretien. Et je vois un petit vis qui devait être tourné ou un clou mis ici ou un peu de peinture par-ci, par-là. Et c'est en arrangeant cette maison qu'elle va rester belle et utile, fonctionnelle. Et nous devons avoir la même idée. Ma femme fait sa part. Elle prépare des repas. Elle prend des linges. Vous savez, je suis venu ici ce matin. J'avais l'idée de venir mettre mes jeans. Je les porte. Croyez-le, je porte des jeans, chemise en kaki dans la semaine. C'est facile si je veux aller dans le garage, ranger les choses. Et j'avais l'intention de me vêtir comme ça. Ma femme a annoncé simplement, j'ai mis tes vêtements pour demain sur le petit porte-vêtements. J'ai un de ces petits porte-vêtements en tube cuivré. Et elle a dit, j'ai dit, merci chérie. Oui, non, j'avais l'idée de mettre des jeans, d'être comme les gars. Non, merci chérie. Et vous savez, c'est rien. Donc, voilà.
Et demain, pourquoi?
Ah, puisque ma femme aime les cravates.
Dis, vous avez toujours porté une cravate, c'est pas maintenant. Ok. Pas double. Je l'aime tellement que je pourrais porter une cravate à tous les jours si c'était nécessaire là, pour garder son amour. Et si vous avez ça, un de ces jours, si Dieu vous donne assez d'années de vie, vous allez dire, nous nous sommes mariés 60 ans, 62 ans, 65 ans. Ah oui, tout est possible. Sauf que moi, et je termine avec cette pensée, je souhaite ardemment que le Seigneur revienne nous chercher tous avant ce temps. Le monde dans l'état où il est, d'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans, jamais mieux être. Oui, veux-tu rester là? Ok. L'idée était bonne, mais faut inventer une fermeture à ressort automatique pour les gars. Ou comme vos enfants, vous savez, là, je sais pas ce qu'on s'appelle. C'est pas le biberon, mais ensuite le deuxième niveau là, puis de sucette. Ça serait bon pour les pasteurs agités. Enfin, merci de votre présence. Je vous avais donné des petites feuilles. Lisez ces versets, méditez-les, dites Seigneur, donne-moi le courage de les appliquer à ma vie pour que notre mariage soit une union impossible à diviser contre toutes les attaques du diable. Seigneur Jésus, merci de ces hommes. La plupart sont, ou étaient, ou seront responsables pour élever les enfants. Pour donner un modèle aux autres. Veuillez venir à leur secours. On vit dans un monde. Autrefois, il y avait des mauvais modèles, mais ils n'étaient pas placés devant nos yeux, comme dans les publications, dans la télévision et autres moyens. Mais maintenant, nous devons être un modèle pour nos voisins, pour notre famille, de ce que c'est un homme qui aime sa famille, qui aime sa femme, comme Jésus-Christ aime le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus. Amen.